Bonjour à tous, on est ici pour rencontrer Régis Sautière, un scénariste de BD, relativement récent dans la BD quand même, Régis, parce que tu es relativement jeune. À peu près quoi, 8-10 ans que tu fais ça à temps plein? Ouais, tu as commencé tard. Donc on va parler quand même de quelque chose que tu fais depuis quelques années, c'est la reprise d'une série quand même de science-fiction. On peut la qualifier comme ça, comment tu la définirais toi? Vraiment purement science-fiction avec beaucoup de côté écologique.
Ça mélange pas mal de choses, mais à la base c'est de la science-fiction. Ouais. C'est à la fois de l'aventure, de la science-fiction. Jacques Vatine, quand il a imaginé un peu cette série au démarrage, lui ce qu'il avait demandé à Kaito de l'écrire, c'est une histoire qui mélangeait à la fois Tarzan et Dune.
Ouais, voilà.
Un résumé de Sky Aqua Blue.
Ouais, de Sky Aqua Blue, cette série quand même qui a commencé il y a pratiquement 25 ans. Donc, et qui, comment dire, a pas mal marqué quand même l'époque dans son genre, parce qu'elle renouvelait bien dans la bande dessinée le genre science-fiction, même si des séries comme Valérian, ce que faisait Moebius ou ce que faisait d'autres étaient déjà très importants. Eux, ils ont apporté quand même, Thierry Kaito et Livy Vatine, quelque chose qui était un peu à qualifier les enfants de Star Wars, ou je peux le dire comme ça, ou tu le sens? Ah, ils ont apporté.
C'est comme ça que je l'ai perçu en tant qu'acteur déjà à la base. Oui, c'est ça, c'était de la grande aventure, à la fois du space opéra, des choses qu'on retrouvait effectivement dans les films de l'époque, que ce soit Star Wars, Indiana Jones, enfin, des choses comme ça.
Ouais, ils sont quand même inspirés. Donc, une grosse influence quand même du cinéma, plus que de la bande dessinée pour Olivier Vatine, qui était quand même lui le dessinateur, puisqu'il connaissait bien ses classiques, mais Thierry Kaito, le scénariste, était quand même plus influencé par le cinéma peut-être que par la bande dessinée elle-même, non? Ouais, tu le sais pas. Donc, Kaito et Vatine vont faire pendant quelques années 11 albums. Enfin, donc Kaito et Vatine vont faire 4. Voilà. Puis la série va être, le premier cycle va être terminé par Ciro Tota, si je me souviens bien. Puis la série va encore durer sur 6 albums qui vont évoluer. Et puis ça va s'arrêter quelques années, quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Olivier Vatine, en fait, après le tome 4, s'est fâché avec Thierry Kaito.
Ouais, je me souviens de ça.
Donc Olivier a revendu ses droits sur la série à Guy Delcourt. Il y a un autre dessinateur qui lui a succédé, c'était Ciro Tota, qui avait déjà commencé en parallèle en fait l'Étoile Blanche.
Ouais.
Après le premier cycle. Donc Ciro Tota a fait les deux tomes d'Étoile Blanche, il a fait le cinquième tome du premier cycle.
Ouais.
Donc il a commencé par faire les tomes 6 et 7 avant de faire le tome 5. Après il a refait un diptyque et après c'est Ciro, un autre qui n'a rien à voir avec Ciro Tota, qui a fait le
troisième cycle complet, donc voilà. La série s'arrête un peu, et puis, bon, toi, depuis quelques années, tu travailles, tu fais pas mal de choses, mais plutôt dans des séries un peu... Alors, si, c'est vrai que t'as quand même un gros succès dans les séries d'aviation, quoi. T'étais quand même un spécialiste de ce genre d'aventure.
Je suis pas du tout spécialiste de l'aviation, mais c'est vrai que les premières bandes dessinées qui ont connu du succès, parmi celles que j'ai faites, c'était des bandes dessinées aéronautiques. Il y a eu le dernier envol avec Romain Gou.
Oui, super.
On a fait... ensemble aussi au-delà des nuages.
D'accord. Donc, et voilà, il y a maintenant 3 ans, je pense, 3-4 ans, tu reçois un coup de fil un jour de Guy Delcourt,
ouais,
qui te dit c'est secret, tu le répéteras pas, mais j'aimerais bien que tu reprennes la série Aqua Blue.
En fait, Guy Delcourt était en train de racheter les droits de Thierry Kaito cette fois, donc le deuxième créateur de la série, le scénariste. Parce que Thierry Kaito n'avait plus envie de continuer, et donc Guy Delcourt me dit est-ce que ça t'intéresse de reprendre les rênes de cette série au niveau du scénario? Donc j'ai réfléchi, allez, entre 5 et 10 secondes avant de dire oui.
Autant que ça?
Ouais, parce que, oui, parce que j'ai quand même posé une question juste avant, j'ai demandé mais est-ce que j'ai carte blanche pour faire ce que je veux? Il m'a dit oui, donc à partir de là, ça, il a emporté le morceau. Parce que, alors j'ai demandé ça parce qu'en fait j'avais l'impression, et c'était une rumeur qui circulait à l'époque, comme quoi Olivier Vatine, quand il avait cédé les droits de la série à Guy Delcourt, avait accepté que la série se prolonge après lui, mais avec interdiction de raconter des histoires qui se dérouleraient de nouveau sur Aqua Blue. Et donc j'ai demandé à Guy Delcourt, est-ce que c'est vrai? Donc est-ce qu'on, si on continue la série, est-ce qu'on peut faire revenir les personnages sur Aqua Blue ou pas? Il m'a dit, bah oui, absolument, il n'y a rien qui t'en empêche. Donc c'était voilà, une rumeur complètement infondée. Et donc à partir de là, puisque moi ce qui m'intéressait dans Aqua Blue, c'était la planète Aqua Blue.
Et oui, parce que cette histoire se passe quand même sur une planète.
Ouais, c'est quasiment le personnage central de la série. Ouais.
Ouais, c'est cette planète qui, dans la première mouture, dans les premiers épisodes, va être colonisée. Il y a des luttes pour préserver les gens. Le héros est assez extraordinaire. Ouais. Alors toi, quand tu sais que tu vas reprendre la série Aqua Blue, Alors, est-ce que tu te poses la question du dessinateur, on te l'impose, ou comment s'est fait le choix de Reynaud ?
Alors là, c'est dès le cours, en fait. C'est-à-dire qu'on voilà, on a discuté ensemble sur le choix du dessinateur. Moi, j'ai commencé à chercher de mon côté. Il y a eu un premier test qui a été fait, qui n'a pas été concluant. Et puis, c'est Thierry Jour, en fait, là, qui est directeur artistique, si je ne dis pas de bêtises, chez Delcourt, qui s'est rappelé de Renaud, qui avait déjà fait un album, en fait, qui s'appelait Valamont, chez Delcourt. Mais un album qui n'avait jamais eu de suite, parce qu'après, Renaud s'était engagé sur un contrat dans le dessin animé, qui l'avait bloqué comme ça pendant plusieurs années. Donc voilà, il y a eu une première expérience malheureuse, on va dire, avec Delcourt. Mais malgré tout, étant donné la qualité du travail de Renaud, Thierry Jour a eu envie de lui donner une deuxième chance. Donc il l'a appelé. Il s'avérait que Renaud, à ce moment-là, venait d'arrêter le dessin animé. Donc il était complètement disponible en dehors de travaux de com qu'il faisait pour des journaux, des magazines, genre en Sciences et Vie Junior, des choses comme ça. Et comme Renaud était, comme moi, un lecteur d'Aquablue, et avait beaucoup apprécié cette série en tant que lecteur, tout de suite il a dit oui, moi je veux bien refaire un test. Et il a fait une première page qui était déjà très belle, mais Guy Delcourt trouvait qu'elle faisait trop photoréaliste. Il n'y avait pas encore de cerné noir, donc il a demandé à Renaud de faire un trait noir sur les personnages, notamment sur les avant-plans, etc. Et puis voilà, et donc là ça a été concluant et on a commencé tous les deux à travailler sur le premier tome de la reprise qui s'appelait Retour aux sources.
Ouais, Retour aux sources, c'est important. Donc maintenant que tu as le dessinateur, tu regardes son travail. Alors toi, tu choisis de faire un. Alors le retour aux sources, ça veut dire qu'on est quand même dans le temps, on est décalé par rapport à aux premières aventures qui se passent dans Aquablue. Nao est parti se promener, il se balade, il revient sur sa planète. On est au bout de 15 ans plus tard, on est fait un peu. Alors toi. Qu'est-ce qui t'a intéressé finalement et de développer dans ta vision de la planète Aquablue justement avec ce retour aux sources, qu'est-ce que tu voulais développer par ce titre-là?
Alors il y a plusieurs choses, il y a d'abord essentiellement le rapport en fait entre les êtres humains et puis et une planète qui sont amenés à coloniser. Et il y a aussi le rapport avec tout ce qui est écologie en fait, et notamment c'est vrai qu'on a tendance à considérer les océans comme une grande poubelle. Et je trouvais intéressant de faire revenir des humains sur une planète quasi vierge de pollution, en tout cas. Donc une grande poubelle qu'ils allaient pouvoir remplir progressivement. En fait, l'objectif, et c'est ce pourquoi on a fait un hiatus de 15 ans entre le premier cycle et celui-là, c'est que dans la première présentation que j'ai faite à Delcourt de ce que je voulais faire de la série, en fait, il y avait une division en trois de cette série-là. C'est-à-dire que je lui ai proposé de faire trois séries parallèles. Il y avait la série Aquablue, qui reprendrait le premier cycle et le cycle qu'on est en train de faire, et qui ne raconterait que des histoires se passant sur Aquablue. Il y aura un cycle qui s'appellerait Fondation Aquablue, qui reprendrait sous forme de diptyque, donc les trois diptyques qui s'étaient déroulés en dehors d'Aquablue, donc il y avait Étoile Blanche et les deux diptyques qui ont suivi, et de confier cette série-là à différents auteurs, scénaristes, dessinateurs, qui pourraient changer à chaque fois. Et à chaque fois, on explorerait une planète différente avec toujours l'équipe de la Fondation Aquablue, donc Nao, Rabat, Carlo, Dupré, etc. Donc ils se déplaceraient comme ça de planète en planète avec à chaque fois une thématique écologique, mais qui serait sur des planètes complètement différentes d'Aquablue. Et puis la troisième série qui aura raconté un peu la jeunesse de Nao, parce que sur le premier tome, en fait, il y a une ellipse d'une dizaine d'années à peu près entre le moment où Nao, qui est tout jeune, atterrit sur la planète, il a 8-10 ans à peu près, et puis le moment où commence vraiment l'aventure du premier cycle, où là on découvre Nao qui a déjà 18-19 ans. Donc il y a un hiatus comme ça, une ellipse de temps. Et je voulais combler cette ellipse-là au travers d'une autre petite série parallèle. Donc voilà, et c'est pour ça que nous, on est parti sur une histoire qui se passerait 15 ans après pour donner un laps de temps suffisant pour que les diptyques de la fondation, enfin de la série Fondation Aquablue, puissent s'installer dans
ouais, donc, dans ce diptyque, tu raconterais un peu les voyages de Nao et des personnages avant qu'ils reviennent sur leur planète, quoi. Donc, ouais, ce retour aux sources, Nao revient sur sa planète, tout semble bien, mais finalement, quelque chose va déraper, quoi. Puisque, finalement, pour qu'il y ait de l'aventure, il faut quelque chose qui se passe pas bien.
Même quand on est bardé de bonnes intentions, il y a parfois des choses qui dérapent. Ouais. Et donc là, le principe de ce diptyque-là, c'est qu'on considère que voilà, la planète Aquablue est de nouveau ouverte à la colonisation, et alors avec des restrictions, des choses comme ça qui sont bien définies. On ne peut pas installer d'industrie polluante, des choses comme ça. Il ne peut pas y avoir non plus d'armes sur Aqua Blue, mais les humains, et donc il y a des humains qui vont arriver, qui vont commencer à coloniser, alors avec, avec les meilleures intentions du monde, mais qui vont quand même provoquer quelques dissensions avec la population locale. Et petit à petit, mon projet, c'est vraiment d'amener Aqua Blue vers quelque chose de beaucoup moins manichéen que l'était le premier cycle. On avait vraiment d'un côté les méchants humains, pollueurs, etc. Et puis de l'autre côté, les bons sauvages, guidés par Nao, qui allait sauver la planète. Là, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus gris. Il n'y aura pas du blanc d'un côté et du noir de l'autre. On va naviguer dans un entre-deux. Et notamment, à partir du troisième tome, on voit que l'une des formes de colonisation de la planète, et ça va peut-être être, mais bon, je ne vais pas vous en dire plus à ce niveau-là, la forme principale, en tout cas dans les albums qui viennent, ça va être une colonisation touristique. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une colonisation qui est à la fois militante et religieuse, qui ressemble un peu au kibbutz qu'on avait dans les années 50, 60.
Oui,
le
kibbutz.
Ouais. Voilà, une colonisation qui va être un peu plus dure, quasi intégriste, ouais. Et puis une colonisation qui est de monsieur tout le monde, en fait, où on vient dans cet endroit-là parce qu'il y a de l'air pur, parce qu'il y a de l'eau non polluée, ce qui n'est plus le cas sur la Terre à cette époque-là, enfin à l'époque où on place notre histoire. Parce que c'est un endroit paradisiaque et on vient pour profiter de l'argent qu'on a chèrement gagné, du voyage qu'on a payé, etc.
D'accord. Donc ça veut dire que toi, tu te sers... tes bandes dessinées précédentes, il n'y avait pas beaucoup d'albums qui traitaient de science-fiction, et peut-être des choses un peu autour du fantastique. Et là, tu vas te servir de la science-fiction dans une grande tradition américaine des années 70 ou même 60, à travers une histoire de science-fiction, on fait un parallèle, une parabole sur le monde contemporain. Quoi. Ça.
Ouais, ce que j'aime dans la science-fiction, c'est vraiment quand elle s'ancre dans la réalité. C'est-à-dire qu'en nous montrant le futur, en fait, elle nous parle du présent.
Oui, c'est tout à fait ce qu'avait fait au départ et ce que tu continues à faire. Alors, mais toi, la science-fiction, finalement, tu es tombé dedans petit, peut-être pas, peut-être, non, je sais pas.
En tant que lecteur, oui. Ouais, j'étais, alors, c'était plutôt au moment de l'adolescence, où l'animal de romans de science-fiction. Je lisais beaucoup, alors dans les auteurs dont je me souviens, il y avait beaucoup Philip Joseph Farmer. J'avais adoré le monde du fleuve. Voilà, on est sur.
Ouais,
c'est pas. 36 milliards d'êtres humains qui sont ressuscités.
Pour ceux qui l'ont pas lu, lisez-le, c'était une petite merveille. Ouais.
La planète qui est parcourue par un fleuve comme ça qui donne en zigzag. Ouais. Planète, et voilà, les 36 milliards d'êtres humains qui ont vécu jusqu'ici sont ressuscités le long de ce fleuve. On ne sait pas pourquoi. Et ils ne peuvent pas mourir parce que quand ils se suicident, ils se réveillent le lendemain matin sur une autre partie du fleuve. Et donc on retrouve, je me souviens, il y a Goebbels, il y a Mozart, et puis des illustres inconnus. Et ça, c'était une histoire assez fantastique. Et j'ai lu au moins une vingtaine ou une trentaine de bouquins de Philip Joseph Farmer. Et puis de plein d'autres auteurs de science-fiction, de Isaac Asimov évidemment.
D'où le titre Fondation Aqua Blue, ça faisait penser à Asimov, non?
Oui, la Fondation Aqua Blue, en fait, c'est vraiment le nom de la fondation.
Quand on parle en SF, finalement, quand on parle de fondation, il y a toujours la référence. Référence à Asimov. J'ai vu aussi que tu parlais de John Brunner aussi, d'un roman qui t'avait marqué à une époque.
Alors, le premier roman de John Brunner qui m'avait marqué, c'était Le Passager de la Nuit. Alors, il m'avait marqué parce que je l'avais lu, je me souviens, j'étais au lycée et je commence le roman. Je comprends, mais absolument rien. Et je lis un chapitre, mais je ne comprends rien. Deuxième chapitre, je ne comprends absolument rien non plus. Puis petit à petit, je crois qu'il y a un copain qui me demande ce que je suis en train de lire. J'essaye de lui raconter l'histoire. Donc avec beaucoup de difficultés, parce que quand on comprend pas quelque chose, on a d'autant plus de mal à l'expliquer. Mmh. Mais le fait de la raconter, déjà, il y a quelques petits détails comme ça qui ressemblent plus ou moins à l'histoire. Il y a un personnage central, parce que le début de l'histoire, tel que je m'en souviens, parce que je l'ai lu il y a plus de 20 ans maintenant, c'est un personnage qui tombe en panne de voiture. Dans le monde contemporain, classique, tombe en panne de voiture au milieu d'une forêt, donc il part dans la forêt à la recherche d'essence, avec son bidon sous le bras, et là il rencontre un personnage qui lui dit pour trouver le village le plus proche, en fait, il veut le bosquet là-bas. Donc c'est un bosquet, 3 ou 4 arbres. Vous faites le tour 3 fois, et là vous verrez un village. Et puis, c'est n'importe quoi. Effectivement, le personnage fait 3 fois le tour, et il aperçoit un village, et là il se retrouve en fait plongé dans un monde complètement chaotique. Et en fait, ce que j'ai trouvé absolument génial dans ce roman, c'est qu'effectivement on ne comprend rien au début, mais c'est normal. Et c'est là la force de Brunner, c'est-à-dire qu'au début on est dans le chaos complet. Et tout le roman c'est un chaos, et petit à petit, en fait, l'histoire se construit, et on va du chaos, en fait, vers l'ordre. Et le roman se met en place au aussi, et on comprend l'histoire, et l'histoire, on finit par tout comprendre à la fin. Et c'est la lutte voilà, du chaos contre l'ordre. Et voilà, on commence dans le chaos et on finit dans un monde complètement ordonné. Et avec une histoire qui l'est elle aussi.
Non, on voit que tu l'as pas oublié, c'est marqué. Alors, est-ce que tes lectures, finalement, de science-fiction, de romans, du type Brandy Brunner, Farmer, leur type de narration, est-ce que toi, comment tu peux est-ce que tu les transposes en bande dessinée? Et si tu les transposes, comment tu fais pour transposer ce que tu as appris avec eux, soit narrativement, parce que passer de l'écriture purement texte à une écriture qui va être dessinée, c'est pas du tout la même chose, quoi.
Non, je fais pas d'adaptation proprement parler. Par contre, bon, ce qui est sûr, c'est qu'une chose, ouais, du point de vue du métier de scénariste, le fait de lire beaucoup m'a énormément appris, parce que chaque fois que je lis un livre, ou quand je vois un film, quand je lis une bande dessinée, qui me plaît vraiment, ou qui me déplaît vraiment, je me demande pourquoi est-ce que ça me plaît autant, ou pourquoi est-ce que ça me déplaît autant. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris mon métier, c'est voilà, en comprenant un peu les ficelles narratives qui font qu'un livre m'a passionné, pourquoi j'ai été comme ça accroché par une histoire qui à la base n'est pas forcément extraordinaire, mais qui est tellement bien raconté qu'on plonge dedans et puis on n'en sort plus avant la fin du livre. Et puis après, il y a évidemment ces auteurs de science-fiction, les livres en général, sont des sources d'inspiration. Je parlais de John Brunner tout à l'heure, il y a aussi un autre roman qui m'a marqué, je pense que c'est de celui-là dont tu voulais parler, c'est Le Troupeau aveugle.
Oui.
Le Troupeau aveugle, en fait, c'est une histoire de science-fiction. Quand je l'ai lue, n'en était plus vraiment une, elle a été écrite en 1972, et ça raconte, c'est une histoire sur fond écologique, et qui montre toutes les dérives qu'il y a dans notre société au niveau écologique, et toutes les catastrophes que ça va amener dans le futur. Alors moi, quand je l'ai lu, on était en 85-87, soit 15 ans après à peu près, et ce qui était décrit dans le roman, en fait, c'était en train de devenir réalité. Et notamment, alors ce roman, en plus, est écrit de façon très particulière, surtout au début, c'est juste des articles, des extraits d'articles de journaux. Ça va être une pancarte qui indique, attention, l'eau de ce robinet n'est pas potable, enfin, des choses comme ça. Et en fait, c'est des choses qu'on commençait à voir apparaître dans les journaux, notamment au niveau de la pollution des nappes phréatiques, de certaines périodes où l'eau du robinet n'était plus potable, de choses comme ça. Et donc tout ça, ce sont des sources d'inspiration dans Aqua Blue et puis après dans toutes les autres histoires que je vais écrire.
Pour en revenir maintenant à Aqua Blue, donc tu n'es que le scénariste, donc tu as un partenaire qui est un dessinateur. Alors fonction, comment tu vas travailler toi ton prédécoupage, enfin ta collaboration avec le dessinateur, elle se fait comment en premier lieu? Est-ce que si vous décidez collégialement comment vous allez traiter, ou est-ce que c'est toi qui fais le scénario et puis tu l'imposes à ton dessinateur et qui lui, après vous décidez ce que vous allez faire? Quel est votre mode de collaboration avec Renaud?
Alors je vais parler de façon générale, parce qu'Aqua Blue c'est particulier, comme voilà, on est parti à un univers qui préexistait, et en plus de ça, l'histoire je l'écris avant qu'on ne sache quel dessinateur allait l'illustrer. Mais en règle générale, quand je monte un projet de bande dessinée, je pars toujours du dessinateur. C'est-à-dire que je vais rencontrer un dessinateur, on a envie de monter un projet ensemble. Et donc je vais partir de son univers graphique, je vais partir de ce qu'il a envie de dessiner comme univers. Est-ce qu'il veut qu'on parte sur un genre particulier, genre un polar, genre une histoire de science-fiction, une histoire d'heroic fantasy, un récit intimiste, etc. Et donc je vais partir de ce qu'il a envie de faire, je vais écrire un synopsis. Un résumé de l'histoire, et s'il est d'accord avec ça, dans ce cas on va aller plus loin. Moi de mon côté, je vais d'abord faire un séquencier, donc c'est une description séquence par séquence de toute l'histoire si c'est un one shot, ou du premier tome seulement si c'est une série.
Qu'est-ce que tu appelles vraiment une séquence?
Une séquence c'est quand on a une unité de lieu et de temps.
Ouais, d'accord, ça peut durer sur une page, plusieurs pages.
Ouais, c'est ça, une demi-page ou 10 pages. Ouais. Ça. Ça va être par exemple, voilà, on est ici dans aux Utopiales, il y a deux personnes qui sont en train de parler et puis plein d'autres
qui écoutent.
Sagement. Et puis après, voilà, deuxième séquence, ça va être une heure après à l'extérieur ou.
D'accord.
Deux jours après.
Donc une séquence, c'est une espèce d'unité lieu où il y a toujours un peu les mêmes personnages et
voilà,
tout ça.
Et surtout, unité de temps.
Unité de temps, ouais.
On change de moment, voilà, dès qu'il y a une ellipse de temps, on change de séquence.
D'accord.
Voilà, et donc le fait de faire ce séquencier, ça permet au dessinateur déjà de voir très précisément où on va, donc de faire s'il a besoin de faire des recherches en amont au niveau des décors, au niveau de certains types de véhicules, des choses comme ça, il peut les faire, avant même d'avoir reçu le découpage. Et puis il sait, quand je lui envoie une séquence découpée, ce qui va suivre. Et donc après, je rentre vraiment dans le découpage, c'est-à-dire que je fais une description case par case en fait de tout l'album.
Mais tu... case 1, on a, mais tu le fais. Tu... Tu l'écris, toi, tu l'écris cette description, parce qu'il y a des scénaristes qui sont, je vais pas dire, qui sont un peu dessinateurs et qui mettent et qui font des espèces de mises en place très schématiques, quoi. Tu fais vraiment, toi, tu l'écris.
Ça, je le fais quasiment jamais. Les seules fois où je l'ai fait, c'est à la demande du dessinateur.
D'accord.
Souvent, c'était parce que, enfin, le cas que j'ai en tête, c'était un dessinateur argentin qui était habitué à travailler pour le marché américain. Marché américain, marché italien. Et donc, c'est des façons de mettre en scène qui sont très différentes. Dans les comics américains, il y a beaucoup de plans rapprochés. Il y a, voilà, on a assez peu de cases par page. On a un découpage qui peut être, enfin, une mise en scène qui peut être assez éclatée, avec des formes de cases assez particulières. Et ça, en bande dessinée franco-belge, ça marche assez mal, en fait. Où on est, voilà, on demande plus aux dessinateurs, voilà, de faire des plans d'ensemble, donc des plans très très larges, d'avoir une mise en scène qui est un peu différente. Et il n'arrivait pas, en fait, à faire ça. Et donc, il m'a dit, fais-moi le storyboard au moins d'une dizaine de pages, que je comprenne ce que tu veux de moi. Et donc c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, en dehors de ce cas de figure-là, c'est très rare. Ou alors c'est quand, voilà, il y a, avec le dessinateur qui a fait une page de storyboard, voilà, il y a une case, il y a, tiens, dans cette case-là, on va lui prendre plus de recul, ou alors au contraire de faire un peu plus rapproché, de changer l'angle. Donc là, voilà, je vais faire un petit dessin rapide pour lui montrer ce que j'ai en tête. Voilà. Mais en règle générale, c'est le dessinateur qui fait le storyboard, donc le dessin au brouillon de la page. Et si je ne fais jamais de storyboard moi-même, c'est parce que je trouve que c'est une contrainte supplémentaire pour le dessinateur. C'est-à-dire que pour moi, c'est le dessinateur qui doit faire la mise en scène, parce qu'après, c'est lui qui va dessiner la page. Et en plus de ça, pour beaucoup de dessinateurs, c'est vraiment la partie plaisir du métier. C'est-à-dire que là où ils prennent leur pied dans le dessin, c'est pas dans, voilà, dans la finalisation des planches, c'est vraiment dans cette partie mise en scène, découpage, où là, c'est quelque chose de beaucoup plus jeté. Et où ils prennent beaucoup de plaisir à faire ça. Et donc si je leur enlève ce plaisir, quelque part, bon, c'est pas terrible. Et puis ça leur permet aussi, chaque dessinateur a vraiment une façon de mettre en scène qui lui est propre, il a un univers graphique. Et si je fais le storyboard, je lui impose, moi, ma propre vision des choses et ma propre façon de mettre en scène.
D'accord. Donc, ouais, donc par rapport à avec tes collaborateurs, enfin les dessinateurs avec qui tu travailles, donc tu t'essayes de t'adapter et leur donner quand même un terrain sur lequel ils peuvent s'amuser, quoi, où ils vont s'amuser à parler de mise en scène, parce que je pense que pour beaucoup de dessinateurs, la partie réalisation technique est la plus laborieuse, quoi, c'est la plus difficile, j'imagine. Oui, c'est la plus longue. Ouais.
L'intérêt, c'est vraiment qu'on s'amuse tous les deux, surtout quand on est parti sur une série, c'est un travail à long terme, on va traîner ça sur plusieurs années. En règle générale, il y a un tome qui va sortir par an, et donc si on est sur une série de 3, 4, 5 tomes, c'est, voilà, on va devoir travailler sur la même histoire. Donc là, d'Aquaplou, on est parti sur un cycle long, qui au départ, ça devait être 5 tomes, à mon avis, ça sera plutôt 6, peut-être 7.
Ah oui, d'accord, c'est bon.
Plus on a des choses à dire, plus on a envie de, voilà, de développer des choses, et on se rend compte que sur 5 tomes, c'est impossible à faire entrer. L'histoire du troisième tome, en fait, au départ, je l'avais prévu, elle va être étalée sur 2 tomes, et au départ, je l'avais prévu sur un seul tome, et je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait tellement d'éléments aussi à mettre en place, et puis de choses qu'il fallait continuer à suivre par rapport à l'intrigue développée dans les tomes précédents, que sur un tome, c'était impossible à tenir. Donc on développe ça sur 2 tomes. Et donc si au bout de 2 tomes, le dessinateur ou le scénariste s'ennuie, c'est difficile. Donc il vaut mieux qu'on reste tous les deux à fond dans l'histoire. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler l'histoire avec le dessinateur.
Et je crois que le lecteur le sent quand le dessinateur et le scénariste vont à l'usine tous les matins. Ils le sentent, ça se sent dans le rythme, ça se sent quelque part, quoi.
Bon, ça... Et j'aime bien quand le dessinateur amène quelque chose à l'histoire. Bon, il en amène forcément de toute façon, de par le fait qu'il fasse la mise en scène de l'histoire. Mais j'aime bien lui laisser aussi une certaine latitude pour amener de nouveaux personnages, de choses comme ça. Et c'est pour ça aussi que quand je commence à travailler sur un projet avec un dessinateur, en plus de lui demander ce sur quoi il veut travailler,
ouais,
je lui demande de me dessiner comme ça les premiers personnages qui lui viennent sous la main. Et je vais m'inspirer de ces personnages. Et les personnages aussi, il y a des personnages secondaires qui vont apparaître dans une histoire, par exemple, que moi j'avais prévu comme vraiment des personnages très très secondaires. Et la physionomie que va lui donner le dessinateur, par exemple, va va m'inspirer et ça va devenir un personnage en fait, qui va avoir un vrai rôle dans l'histoire.
C'est-à-dire que de votre collaboration et dans les personnages, il y a une espèce de vie à la série qui fait qu'il y a des choses qui se créent d'une manière, je ne veux pas dire impromptue, mais qui apparaissent et qui n'étaient pas prévues finalement dans ton scénario.
Qui n'étaient pas prévues sur le synopsis, hein, qui parfois n'étaient pas prévues sur le séquencier. Par exemple, là, je fais une autre série qui s'appelle La Guerre des Lulus.
Superbe série pour les enfants, moi, je trouve. Je te le dis franchement.
Qui a démarré cette année. Donc, le tome 2 arrive en janvier. Et dans cette série-là...
On peut dire un petit mot Story 2,
C'est un groupe de 4 orphelins qui se retrouvent au tout début de la guerre de 14, isolés derrière les lignes allemandes. C'est-à-dire qu'ils sont dans un orphelinat qui est près de la frontière belge, et quand les Allemands arrivent par la Belgique, en fait, les villages sont évacués, et les enfants qui jouent dans la forêt sont oubliés, dans la panique, et ils vont devoir passer les 4 années de guerre, en fait, à survivre derrière les lignes allemandes. Et c'est des enfants qui ont entre 11 ou 12 ans pour le plus petit, et puis 15-16 ans pour le plus grand. Ils vont être rejoints par une petite fille. Et alors, la coiffure qu'a donné le dessinateur à cette petite fille ne me plaisait absolument pas. Mais donc, alors voilà, sur le storyboard, ça se voit pas. Par contre, une fois la planche finalisée, je me dis, ah non, sa coiffure, j'aime pas. Et puis, bon, c'est difficile de demander à un dessinateur de refaire un dessin qui est entièrement fini. Et puis, je me dis, bon, c'est moi, je vais m'y faire. Et puis, plus ça avançait, plus non, moi, je me faisais la coiffure de la petite fille. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une séquence comme ça qui est apparue dans le tome 2 où les 5 enfants, en fait, se font raser la tête. Qui va permettre aux dessinateurs de refaire de nouvelles coiffures qui seront plus en adéquation avec ce que j'avais imaginé.
D'accord. Bah donc ça c'est pour illustrer un peu la vie comment.
Et j'aime bien ce jeu de ping-pong en fait, ouais, entre le dessinateur et le scénariste. J'aime bien m'inspirer du travail du dessinateur même en cours de réalisation.
D'accord. Ouais, donc ce qui donne une certaine vie, une certaine comment dire, une évolution à la série qui est pas forcément prévisible mais qui donne quand même quelque chose de très vivant quoi finalement. Alors, quand tu as repris Aquablue, toi, tu connaissais bien la série, donc qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette planète finalement et que tu avais envie de développer et sur quoi par rapport à la série originale? Tu disais tout à l'heure que tu les trouvais un peu trop manichéens, donc tu as voulu partir. Mais est-ce qu'il y a des choses qui en plus t'intéressent sur purement la planète ou des espaces que tu as envie d'explorer finalement dans cette planète et que les précédents auteurs n'avaient pas du tout. Avait laissé un peu en friche, vous n'avez pas du tout exploré quoi.
Ouais, bah en fait, Aquablue, c'est une planète qui a été relativement peu exploitée dans la série Aquablue, paradoxalement. C'est-à-dire que cette planète, on la voit uniquement sur le premier cycle, et le premier cycle reste quand même très centré sur l'intrigue, sur l'action, etc. Et de la planète, on ne voit au final que l'île d'Ouvéa, et puis on doit voir une ou deux autres îles. Tout au long de la série, alors peut-être deux ou trois, j'ai pas compté, mais on voit très peu de choses en fait de la planète. Et donc avec Renaud, on avait envie d'explorer un peu cette planète-là et d'en montrer un peu plus. Alors c'est pas non plus une bande dessinée d'exploration géographique, donc on essaye de dévoiler petit à petit ce qu'est la planète et puis les différents endroits de la planète au travers de l'histoire. Donc, il faut aussi que ça rentre dans certaines cases. Mais voilà, on a envie de développer un peu la faune maritime, la flore aussi, de montrer d'autres archipels, d'autres peuplades aussi, puisque sur la série, le cycle d'origine, on ne voit que le village de pêcheurs d'Aquablue en fait, mais la planète est peuplée par cette espèce, et on peut imaginer que, comme sur Terre, en fait, si une espèce humaine voilà, est une, après, y a différentes déclinaisons de cette espèce. Et sur Aquablue c'est pareil, donc on va montrer voilà, des hommes bleus mais qui vont avoir une coloration différente, qui vont avoir un physique un peu différent de ceux des pêcheurs. Et puis on va essayer petit à petit de parcourir un peu toute la planète avec Nao et ses copains.
Alors, le dessin de Renaud de. Tu m'expliques un peu, même si t'es pas ton boulot que c'est pas le dessin, mais donc le rendu graphique de Renaud est dû à quoi? C'est un dessin à l'ordinateur? Comment il fait?
C'est un dessin qui est entièrement fait à l'ordinateur. Ouais, il travaille sur une Cintiq en fait, qui est un ordinateur, enfin un écran d'ordinateur sur lequel on a décidé. Et donc il y a beaucoup de traces papier de travail de Renaud. Même les études de personnages, même les storyboards, tout ça, il fait ça sur ordinateur avec un stylet. Dessine sur son écran. Et alors, je
sec sur certains décors, notamment certains bâtiments et certains vaisseaux qui vont être amenés à revenir plusieurs fois dans la série. Il fait de la modélisation 3D, du design officiel 3D pour dessiner, concevoir le vaisseau. Par exemple, il y a le Stromboli qui est le vaisseau principal d'Aqua Blue qui ressemble au Faucon Millennium dans Star Wars. Donc ça, Renault l'a modélisé. Et à partir de cette modélisation, en fait, ça lui permet de tourner le vaisseau sous tous les angles, comme ça, de le positionner, et puis après, de le dessiner. Puisque la modélisation, c'est pas une modélisation en détail. Tous les détails du vaisseau ou du décor ne sont pas faits. C'est juste les volumes, en fait, qui sont modélisés. Mais ça lui permet après de choisir le meilleur angle pour la mise en scène, et puis après, de faire le dessin.
Ouais, c'est-à-dire, au contraire, des ancêtres comme Bourgeon qui faisaient des maquettes de bateaux dans leur atelier, lui, il fait ça à l'ordinateur. Ouais, donc, ce qui est quand même peut-être un peu plus simple, non ? Et puis, moi, un peu plus rapide ?
Alors, le fait de modéliser en 3D, oui, ça va l'aider sur certaines séquences où on voit plusieurs fois le même vaisseau, plusieurs fois le même décor. Mais si c'est juste pour une page ou deux, je crois que ça lui fait perdre du temps, en fait, parce que le temps qu'il passe à modéliser, c'est pas un temps qu'il va gagner après au dessin, puisque de toute façon, même s'il travaille sur ordinateur, c'est vraiment du dessin sur ordinateur. C'est-à-dire qu'il n'appuie pas sur trois touches et puis hop, le dessin est fait. C'est vraiment un dessin qu'il fait avec un stylet à la place d'un crayon.
Ah ouais, d'accord, c'est un crayon électronique, quoi.
Donc, le travail est tout aussi long qu'on le fasse sur ordinateur ou sur papier. Le gros avantage, par contre, c'est qu'on peut effacer facilement, revenir en arrière.
Pour ceux qui étaient là hier soir, ils ont dû voir Denis Bajram qui a fait une démonstration de cette technique de dessin qui est assez extraordinaire. Quand on la maîtrise bien, ça donne une facilité. Il y a quand même une avancée technique qui facilite le dessin des auteurs. Par contre, c'est quelque chose de... Je ne sais pas si c'est facile à maîtriser. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez complexe, non ?
Ah, au niveau technique, non. Bon, après, il faut apprendre, hein, c'est comme tout. Ouais. Mais non, c'est... Même moi, en tant que scénariste, c'est une technique que je maîtrise. Par contre... Je ne peux pas dessiner avec, parce que si, je vais dessiner, mais je ne vais pas avoir le
dessin chrono. Ouais, c'est vrai. Avec un pinceau, on peut tous prendre un pinceau ou ça, et puis on va faire des choses. Ouais, après, il y a le talent qui fait la différence. Quoi.
On peut apprendre facilement à faire de l'aquarelle ou de la peinture. Ouais. On peut apprendre à peindre sur ordinateur, parce que le travail de Renaud, en fait, je dirais plus proche du travail d'un peintre que de celui d'un dessinateur à proprement parler. C'est-à-dire qu'en fait, il va travailler par volume, par touche de couleur. On peut voir sur internet en fait on appelle ça des work in progress de Renault, donc on le voit travailler sur un dessin. Et en fait, contrairement à un dessinateur classique de bande dessinée qui va faire le dessin au crayon à papier, qui après va faire l'ancrage au noir et après va remplir les formes qui ont été dessinées avec de la couleur, lui Renault il commence par la couleur. Donc il va faire des petit à petit en fait il va tailler dedans comme un sculpteur ou comme un peintre, il va affiner, et le trait noir ne vient qu'à la fin en fait.
D'accord, ouais, donc une technique un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Quoi.
Là, c'est plus proche d'un peintre, en fait, de quelqu'un qui peint à l'huile ou à l'aquarelle.
Alors toi, le fait que Renaud travaille dans cette technique-là, travaille de cette manière, à toi, est-ce qu'au niveau scénario, ça te donne des idées ? Parce que je regardais dans Aquabou, il y a beaucoup de choses dans cette partie-là. Il y a beaucoup de grandes cases et beaucoup de cases superposées qui sont, à mon avis, un découpage ou une mise en scène qui est... plus proche du cinéma. Je pense qu'il y a une influence cinéma dans ce que vous faites tous les deux, plus que dans la série précédente, quoi.
Oui, quoique, c'est déjà une... je dirais qu'au niveau de la mise en scène, on s'est aussi beaucoup inspiré de Vatine, parce que c'est un metteur en scène en bande dessinée fabuleux, quoi. À ce niveau-là, je pense que c'est un des plus grands metteurs en scène, entre guillemets.
Oui, je...
dessiner avec des gens comme Loisel, etc. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui l'intéresse, Olivier Vatine, parce que plus que le dessin. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant des années, en fait, sur le label Série B, après avoir arrêté Aqua Blue, il a fait pas mal de storyboards pour d'autres dessinateurs. Et j'ai la chance là, de bosser un petit peu avec lui et de voir des pages de storyboards faites par Vatine. Ça pourrait être imprimé tel quel, tellement c'est beau. Et donc, Renaud, c'est à la fois inspiré de la mise en scène d'Olivier Vatine. D'ailleurs, les premières pages qu'avait fait Renaud étaient un peu timides à ce niveau-là, et puis après, voilà, il s'est mis à faire des pleines pages, des incrustations, des choses comme ça. Et donc, il s'est à la fois inspiré du travail de Vatine, et puis après, voilà, de sa propre expérience, notamment aussi dans le dessin animé.
Ouais, ce que j'allais venir, ouais, on voit quand même, oui, qu'il a travaillé dans le dessin animé pour certaines séquences, les superpositions et des choses comme ça, quoi. Ouais. Donc votre Aqua Blue, donc vous allez l'explorer, vous allez la développer. Tu parlais aussi de séries un peu intermédiaires. Hein. Et alors, dans le temps, vers quoi tu espères aller avec cette série, finalement, à développer bon, tes projets, développer des thèmes de société, des thèmes politiques, mais arriver à faire une science-fiction comment dire, très constructive. Il y a aussi pas mal de technologie dedans, quand même, comme dans toute SF, quoi.
Ouais. C'est un peu le passage obligé. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on regarde avec le recul, en fait, la série d'origine, elle a un côté très vintage. Parce qu'évidemment, quand elle a été créée en 1988-89, déjà Internet n'existait pas, en tout cas pas pour le grand public.
Non, c'est.
Les moyens de communication étaient complètement différents de ce qu'on connaît maintenant. Donc là, le monde d'aujourd'hui est presque plus de la science-fiction que l'Aquablue des origines. Et donc nous, on doit jongler avec ça parce qu'on est dans la suite de cette série-là. Et puis en même temps, voilà, si on ne veut pas faire trop, je ne vais pas dire ringard, mais trop vintage justement,
ouais,
par rapport au monde moderne, on est obligé, voilà, de faire des apports technologiques plus ou moins futuristes. Mais à chaque fois, on essaye de s'inspirer de choses qui existent déjà. On essaye vraiment, ouais, de s'inspirer du présent et de choses qui sont en cours de développement actuellement.
Donc ouais, vous essayez de comment dire, d'inscrire Aquablue dans le monde contemporain, quoi, finalement. On en parlait hier, comme beaucoup de reprises de séries, on parlait avec Johan et Velman de Spirou aussi, qui essayent de mettre ça dans un monde plus contemporain, même si c'est une série qui est beaucoup plus ancienne, quoi. Je crois que le fait de reprendre des séries, vous êtes souvent, comment dire, surtout sur une série un peu de science-fiction, comme ça, de science-fiction, vous êtes obligé de tenir compte de ce qui s'est passé, finalement, depuis la création, quoi.
Si on mettait dans Aquablue, je sais pas, des écrans d'ordinateur en tube cathodique comme il y en a dans les premiers tomes d'Aquablue, donc avec
les grosses machines, les gros trucs
qui n'existent quasiment plus aujourd'hui, ça ferait un peu bizarre, alors qu'à l'époque ça passait tout à fait. Et puis après, même au niveau des thématiques abordées, on veut rester, enfin moi je sais que je veux rester ancré dans la réalité et dans le contemporain. Ce que je disais tout à l'heure, je veux que cette série-là en particulier, mais moi ce que j'aime dans la science-fiction en général, c'est qu'elle apporte un regard, en fait, sur le présent. Et voilà, et c'est ce que je veux faire aussi à travers de cette série-là.
Ouais, c'est une série, donc, une série qui est plutôt un caractère ludique, mais qui veut aussi un peu faire réfléchir les gens.
C'est...
Oui, on s'amuse d'abord, mais on veut réfléchir un peu. Alors maintenant, est-ce que tu peux parler un peu de tes influences cinématographiques, parce qu'il y en a quand même de quelques-unes dedans, dans la nouvelle formule, les hommes bleus, bon, on va penser un petit peu à Avatar, autant dans les premières versions, on pensait à la guerre des étoiles, donc je veux dire, ça aussi, ça joue, ce côté de tes influences du cinéma par rapport à ce que tu vois, ou des choses comme ça.
Ah oui, comme... aussi bien ce que je vois au cinéma que ce que je vais lire, etc., tout ça m'influence. Pour Avatar, en l'occurrence, c'est un peu le contraire. C'est un peu James Cameron qui a pompé sur le premier cycle d'Aquablue.
D'accord.
Pour faire son film.
Mais... Ouais.
Mais sinon, oui, le cinéma en règle générale, y compris le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma de science-fiction des années 50, 60... parce que c'est pas un cinéma qui est entièrement basé sur les effets spéciaux. Contrairement à ce qu'on voit beaucoup maintenant, il y a beaucoup de films de science-fiction. Ce qui compte, c'est avant tout en mettre plein la vue aux téléspectateurs, et puis avec de l'action, des explosions, des immeubles qui tombent, des vaisseaux qui explosent, etc. Dans les films plus anciens, même dans Star Wars, hein, où les effets spéciaux ont un côté plus artisanal, ce qui primait aussi, c'était d'abord une intrigue, en fait.
Une histoire d'abord, ouais.
Je pense à Planète Interdite,
ouais.
Comme ça.
Ah oui, qui sont quand même.
Vraiment, voilà, une histoire de fond et assez forte au niveau science-fiction, justement. Voilà, donc il y a aussi ce genre de film qui m'inspire. Et après, au niveau mise en scène, par contre, Renaud est plus inspiré, lui, par des films plus récents.
Par les choses plus contemporaines. Donc, et ben voilà, donc pour l'instant, vous en êtes à 3 épisodes de la nouvelle série. Tu me dis qu'il y en aura 6 ou 7. Ben écoute, Régis, on va attendre avec impatience qu'ils paraissent pour les découvrir et pour voir où tu vas emmener ton lectorat et où tu vas nous emmener. Voilà. Merci Régis.